Et à 7h, que se passe-t-il? Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un invité controversé reçu par Emmanuel Macron. Le Premier ministre indien était hier dans l'Oise avant de rejoindre le G7 pour quelques sessions de travail. Il n'en fait pas partie, mais c'est un interlocuteur essentiel, notamment sur l'environnement.
Lui a été reçu à l'Élysée hier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a rappelé au chef de l'État français sa volonté de trouver un accord avant le Brexit le 31 octobre.
Pour que le G7 consacré à la lutte contre les inégalités ne soit pas que de vaines paroles, les militants continuent leur travail de terrain à Biarritz, exemple avec l'ONG One qui bataille notamment pour l'égalité femmes-hommes. La préservation du service public comme mot d'ordre des agents des impôts feront grève mi-septembre. Ils dénoncent un manque de moyens alors qu'ils sont encore plus sollicités depuis la mise en place du prélèvement à la source. Emmanuel Macron et Narendra Modi, main dans la main hier au château de Chantilly. Le président français a reçu le Premier ministre indien près de Paris avant de l'inviter à assister à deux sessions du G7 qui s'ouvrira demain à Biarritz. Narendra Modi était persona non grata encore hier avant d'être accueilli comme un ami, un partenaire en tout cas majeur sur les sujets climatiques et sur les nouvelles technologies selon l'Élysée, qui le présente aussi comme soucieux des libertés fondamentales. Pourtant dans le pays, la guerre aux dissidents a rarement été aussi dur, Mathilde Vallant.
Parmi les cibles des nationalistes hindous, dont le Premier ministre Narendra Modi est l'un des leaders incontestés, il y a de plus en plus d'intellectuels, rappelle la journaliste Ingrid Tervat.
L'ennemi maintenant numéro un, un des ennemis nombreux du régime, ce sont les intellectuels de gauche. Et alors on les traite de naxalites urbains, c'est-à-dire de guérilleros des villes, quoi, antinationaux, limite des traîtres.
Car naxalites qualifient en Inde les membres du parti communiste maoïste, une organisation terroriste interdite depuis 2009, c'est donc tout sauf une accusation en l'air. Depuis cet été, la législation antiterroriste a d'ailleurs été durcie, précise Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI Sciences Po.
L'amendement à cette loi qui vient d'être votée à l'été 2019 rend la présomption de terrorisme encore plus facile à alléguer, parce qu'il suffit d'avoir dans sa bibliothèque des ouvrages qui parlent de terrorisme, qui parlent de violence politique, pour qu'on puisse être ainsi mis derrière les barreaux. Et je le répète, y rester sans pouvoir se défendre pendant au moins un an.
Un poète, des universitaires, un pédiatre qui a défendu publiquement le prix Nobel Amartya Sen ont ainsi passé parfois des années en prison. En ce moment, face à l'arrestation de ces activistes et en solidarité à leur cause, le hashtag #MeTooUrbanNaxal connaît beaucoup de succès, mais le gouvernement Modi reste inflexible.
Un dossier à retrouver sur notre site franceculture.fr. Emmanuel Macron, qui a également rencontré hier Boris Johnson. Après Berlin et sa visite à Angela Merkel, le nouveau Premier ministre britannique venait évidemment parler Brexit à l'Élysée. Les deux hommes se sont montrés conciliants, désireux de trouver un accord pour organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais plus on se rapproche de l'échéance le 31 octobre prochain, plus il faut se rendre à l'évidence que le scénario du no deal est celui qui se dessine. Je vais être ici très clair, a déclaré le chef de l'État français hier. Dans le mois qui vient, on ne va pas trouver un nouvel accord de retrait qui soit loin des bases. À Londres, la correspondance de Marina Daras.
Derrière les poignées de main polies, rien n'a vraiment changé. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont chacun à leur manière répété ce que Boris Johnson savait déjà. Il n'y aura pas de renégociation de l'accord de sortie signé par Theresa May. Le backstop est indispensable pour les Européens et il ne bougera pas, en tout cas pas tant qu'il n'y aura pas d'alternative concrète. L'UE s'est toujours dit ouverte à l'idée d'envisager des arrangements alternatifs au filet de sécurité, mais personne ne s'attend à ce qu'elle se concrétise en 30 jours et c'est pourquoi l'UE reste attachée à son plan d'assurance irlandais. À seulement 69 jours du Brexit, les optimistes qui pensent qu'un accord est encore faisable sont peu nombreux. Mais Boris Johnson n'avait en réalité que très peu d'espoir de faire changer d'avis les Européens, car une fois le Brexit enclenché, le Royaume-Uni espère pouvoir signer un accord très avantageux avec les États-Unis. Depuis son entrée à Downing Street, Boris Johnson s'est entretenu une dizaine de fois avec le président américain. Son ministre des Affaires étrangères et son secrétaire au commerce international se sont déjà rendus à Washington, alors qu'il y a quelques jours encore, Boris Johnson n'avait échangé que de brèves conversations téléphoniques avec les dirigeants européens. Mais certains Britanniques voient cela d'un mauvais œil, car tout accord commercial a un prix et le Royaume-Uni, qui voulait s'émanciper en quittant l'UE, risque de se retrouver piégé de la même manière par les États-Unis.
Un espoir de ne pas sombrer un peu plus dans la crise. En Italie, cette fois, le président donne jusqu'à mardi aux partis politiques de son pays pour trouver une majorité. Sergio Mattarella a reçu ces deux derniers jours les différentes formations après que la coalition a éclaté entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue menée par Matteo Salvini. Plus de précisions à suivre dans le journal de 8 heures. Notre maison brûle, a tweeté Emmanuel Macron hier. Rien à voir avec les défis de l'Union européenne en ce moment. Le président français s'inquiète des incendies en cours en Amazonie. Il constitue selon lui une crise internationale et compte bien aborder ce sujet lors du G7 à Biarritz ce week-end. En réponse, son homologue brésilien l'a accusé d'avoir une mentalité colonialiste. À la veille de ce sommet international, Emmanuel Macron poursuit ses rendez-vous à l'agenda. Il recevra toute la journée des représentants de la société civile pour parler lutte contre les inégalités, puisqu'on le rappelle, c'est le thème, la priorité de ce G7, l'égalité femmes-hommes en fait partie, et pour sensibiliser la population en attendant les actes. Hier, des membres de l'ONG One interpellaient les passants aux abords de la grande plage de Biarritz. Rosalie Lafarge.
Bonjour, on milite pour l'égalité entre femmes et hommes.
D'accord. Armés de leur téléphone, les bénévoles de One partent à l'assaut des abords de la plage pour inciter les passants à se laisser prendre en photo dans un grand cadre sur lequel il est inscrit.
We want you to deliver a feminist G7. Donc donnez-nous un G7 féministe.
Pour faire passer le message aux dirigeants, l'ONG mise sur la société civile et les réseaux sociaux, même si les militantes sentent parfois qu'il reste un long chemin à parcourir.
Non mais si, l'égalité, mais elle ne peut pas y être à 100% l'égalité. De construire une maison par exemple, moi je ne demanderai jamais à ma femme de porter des moellons.
Mais la plupart du temps, l'accueil est bon.
Je pense que c'est une question qui ne devrait même pas se poser.
Est-ce que ça me semble normal, tout simplement?
Puisque nos chers leaders se sont engagés à avoir un G7 en faveur de l'égalité homme-femme et en faveur de l'égalité de genre, on leur demande de transformer ces promesses en progrès.
J'espère, mais à chaque fois qu'ils se réunissent, ils n'en sortent rien. Quand ils mettent quelque chose en place, c'est pas suivi derrière.
Et c'est bien là-dessus qu'insiste l'organisation. Frédéric Röder, la directrice France et Union européenne de One, réclame des engagements, mais pas seulement.
Ce qui est très important aussi pour nous, c'est non seulement d'avoir ces engagements donc législatifs et financiers, mais que les dirigeants acceptent aussi de rendre des comptes. Du coup, on veut un vrai suivi après Biarritz pour qu'on sache que ce que les dirigeants ont dit ici à Biarritz soit vraiment mis en œuvre.
Et l'ONG propose pour cela la mise en place d'un mécanisme de contrôle indépendant. Seule façon, pense-t-elle, d'accélérer le combat et d'éviter que, comme le prédit le rapport du Forum économique mondial, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent encore pendant plus de 100 ans.
Eux aussi se mobilisent. Les agents des impôts s'inquiètent des suppressions de postes et du manque de moyens pour faire face à la mise en place du prélèvement à la source. Une intersyndicale appelle à la grève le 16 septembre prochain. La CGT Force Ouvrière Solidaire et la CFDT de la Direction Générale des Finances Publiques dénoncent une lente disparition de ce service public. Le malaise n'est pas nouveau, Hugo Charpentier.
Depuis le début de l'année et la mise en place du prélèvement à la source, il n'arrête pas. Les agents d'accueil des centres des finances publiques sont débordés, comme à Bourges, dans le Cher, là où travaille Franck Jansoni, délégué Force Ouvrière.
Il y a beaucoup de questionnements parce que les gens sont inquiets et comme il n'y a pas beaucoup de personnel, tous les services sont un peu à agonie. On fait au plus urgent, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et puis il y a gros de pression sur les agents.
Les agents sont ultra sollicités et en même temps les effectifs baissent. Dans le Cher, 18 postes supprimés rien que cette année, 12 l'an dernier et ça devrait encore continuer.
On perd à peu près entre 10 et 15 emplois tous les ans et il y en a beaucoup qui sont à la limite de craquer. Ce qui est en train de se passer est très violent. On n'a jamais vu ça.
L'an prochain, au niveau national, Bercy prévoit de supprimer 2000 postes pour un total de 10 000 emplois d'ici la fin du quinquennat. Anne Guyovelk est secrétaire nationale du syndicat Solidaire.
On a une administration qui a toujours été la cible favorite des suppressions d'emplois par les différents gouvernements. Sauf qu'au bout d'un moment, ces suppressions ne sont plus supportables à la fois pour les collègues qui exercent les missions, mais aussi pour les contribuables qui voient une réduction de leurs services public.
En 10 ans, 1200 centres des impôts ont mis la clé sous la porte. Pour stopper cette hémorragie, Bercy promet de multiplier la création de points de contact entre le citoyen et l'administration. Un chantier qui est au cœur de la réorganisation des services des impôts et qui ne convainc pas les syndicats.
On appelle ça un leurre, ouais, c'est faire croire aux usagers qu'ils auront le même service sur l'ensemble du territoire. Or, c'est complètement faux. Derrière ce point de contact, ce ne sont pas des agents des finances publiques, mais ce seront un service public low cost avec des agents ou des contractuels qui ne pourront pas répondre de la même façon parce qu'ils n'auront pas la formation par rapport à un agent formé par l'administration.
Exaspérés par la disparition des services publics, plusieurs communes ont d'ores et déjà voté des textes pour condamner et s'opposer à cette réorganisation.
Les précisions d'Hugo Charpentier. La météo de ce vendredi, c'est un peu comme hier. Le soleil devrait briller partout, sauf dans le sud-est où on attend dans l'après-midi un ciel menaçant et des averses orageuses.